Salut tout le monde et bienvenue au podcast pour la route. Je suis pas tout seul aujourd'hui.
Devinez c'est qui?
J'ai de la visite au podcast pour la route parce que j'avais besoin de la reine des aménagements de VR avec moi pour la discussion d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de toutes les sortes d'aménagements de VR. On a visité des salons du VR un peu partout, en Amérique du Nord, au Québec. On a visité en Floride, on a été en Europe. On en a vu en tabarouette des VR, toi puis moi, Val.
Ben oui, ben pour ceux qui sont à l'écoute juste seulement via audio, ben c'est Val, c'est moi, la conjointe d'Alexandre.
Il n'y en a pas d'autres.
Non, il n'y a pas d'autres invités.
Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, je voulais t'avoir parce que autant moi, je me considère comme quand même assez spécialiste au niveau des points plus techniques, mais au niveau des points plus d'aménagement de type, disais, que ce soit banquette, lit fixe, que ce soit dormir dans une capucine, bref, on va jaser de tous ces sujets-là aujourd'hui ensemble, puis je voulais avoir ton point de vue. Fait que là, pour que vous sachiez, Val n'est pas au courant du tout de toutes les questions que je vais lui lancer. J'ai tout préparé ça d'avance, puis je ne voulais pas lui montrer d'avance parce que je voulais avoir vraiment son avis honnête sur le moment, sur chaque point. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai eu un enjeu dernièrement, Val, en publiant mes vidéos sur TikTok parce que je réalisais qu'il y avait juste des Mexicains qui voyaient. J'avais un problème parce que TikTok, c'est vraiment géolocalisé. Puis quand on publie nos vidéos, il montre aux gens qui sont autour de nous. Puis là, ben, étant donné qu'on est au Mexique, les vidéos que je mettais sur TikTok étaient toujours montrées à des Mexicains. Fait que là, j'avais des commentaires de Mexicains, mais c'est pas vraiment le public que je tente de rejoindre avec mes vidéos. Puis ils doivent rien comprendre de ce que je dis.
Non.
Fait que pour remédier à la situation, j'ai utilisé le VPN Surfshark, qui est justement notre commanditaire de la vidéo d'aujourd'hui. Surfshark, c'est un VPN, donc ça nous permet d'utiliser des serveurs un peu partout dans le monde pour changer notre connexion de place. Donc moi, au lieu d'être au Mexique, je vais aller sur l'application Surfshark et je vais mettre comme si j'étais au Québec. En fait, il y en a un à Montréal, entre autres, qui fonctionne super bien. Fait que je mets ma connexion comme étant à Montréal, je publie ma vidéo sur TikTok et hop, elle est montrée aux gens du Québec. Puis c'est pas utile juste pour ça, un VPN, ça peut servir aussi, d'un, pour sécuriser votre connexion quand vous utilisez des Wi-Fi publics. Ça peut vous permettre aussi de changer votre géolocalisation quand vous utilisez des applications comme Netflix, Disney+, et tout ça. Ils ont des catalogues qui sont différents par pays. Donc, ça vous permet d'aller, exemple, sur Netflix et d'aller voir tous les films qui sont disponibles aux États-Unis seulement, au Canada seulement ou dans d'autres pays. Fait que c'est super agréable pour ça. Puis nous, on l'utilise, entre autres, pour écouter nos émissions au Québec, comme Big Brother ou bientôt Survivor qui va commencer. Fait qu'on va pouvoir écouter ça, même si on est au Mexique. Puis même si c'est des films ou des émissions qui sont vraiment réservées au Québec seulement. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, avec votre abonnement Surfshark, ça vient aussi avec Surfshark One qui offre plein d'autres avantages, comme entre autres un antivirus. Donc, vous pouvez faire des scans sur vos appareils pour vous assurer que vous n'avez pas de virus. Donc, ça vient aussi sécuriser vos appareils. Et vous pouvez utiliser votre abonnement sur tous vos appareils. Donc, que ce soit votre ordinateur, votre iPad, téléphone, vous pouvez prendre votre abonnement Surfshark, payer juste une fois pour tous ces appareils-là. Sécurisez votre vie privée avec Surfshark. Entrez le code promo Alexandre et Valérie pour obtenir 3 mois supplémentaires à votre abonnement. Le lien se trouve dans la description. On est maintenant rendu, Val, à notre sujet du jour. Premier sujet qui est controversé un peu, je pense, dans les choix d'aménagement, que ce soit si vous achetez un VR neuf ou vous en faites construire un ou vous achetez quelque chose d'usagé, d'avoir un lit fixe ou une banquette qui se convertit en lit. Qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur choix ou du moins pour quel type de personne ça s'adresse? Puis là, je parle de banquette, mais ça peut être une banquette, exemple, face à face comme on avait dans la Micro Mini. Ça peut être une banquette, tu sais, un peu comme Alex et MJ que leur lit principal est une banquette, ou ça peut être le même concept que ce qu'on a dans la vanne ici, qui est un banc vraiment qui devient un lit. Mais bref, lit fixe ou lit convertible, qu'est-ce que tu penses qui est le mieux?
À mon avis, à moi, puis je suis sûre que mon avis pourra aider beaucoup de personnes parce que je suis certaine que ça doit être rare quelqu'un qui adore faire beaucoup de manipulations dans sa journée. Donc, honnêtement, je préfère avoir un lit fixe. Un lit fixe, puis mettons, comme dans la Micro Mini, notre première roulotte qu'on a eue, bien, on avait le lit à part de la dinette et la dinette pouvait devenir un lit. Fait que ça, je trouve ça un plus. Dans le cas de Alex et MJ, que c'est la dinette face à face qui devient le lit, oui, c'est pratique parce que tu es dans un petit emplacement, mais il faut pareil que tu fasses la manipulation, tu sais. Fait que je serais un peu moins tentée à opter vers ça. Mais si c'est des gens comme nos amis Alex MJ qui voyagent juste une fois de temps en temps, bien, c'est pas des irritants, c'est pas des manipulations qui irritent à la longue. C'est parce que ça te fait plaisir de le faire puis t'es content d'avoir ces options-là.
Fait que c'est peut-être, dans le fond, c'est une distinction à faire. Je pense que si c'est pour vivre à temps plein ou pour des très longues périodes, ouais, c'est peut-être mieux d'avoir un lit fixe puis pas avoir de manipulations à faire à tous les jours. Mais si c'est plus pour des week-ends ou des petits voyages de quelques semaines ou quelques mois de temps en temps, là, ça peut être utile d'avoir cet espace de vie-là qui n'est pas condamné pendant, oui, toute la journée puis qu'on peut utiliser pareil.
Comme par exemple, la vanne qu'on a en ce moment, présentement, bien, c'est une banquette qui se transforme en lit. Puis c'est la seule banquette qu'on a, bien, mis à part celle qu'on est assis dessus présentement, qui se transforme en toilette. Pour vrai, ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment cool que tout se transforme puis que chaque place dans le véhicule a deux fonctions, même jusqu'à trois fonctions. Fait que ça, j'aime ça ici, que la banquette arrière se transforme en lit et vice-versa. Comme ça, le jour, bien, je remonte le lit en banquette et je peux travailler, je peux prendre mon déjeuner. Fait que c'est super agréable.
Chacun a comme ses avantages et désavantages.
C'est agréable, mais ce qui est irritant à la longue, c'est vraiment de faire ces manipulations-là le matin et le soir.
Même si, mais par contre,
mais
il faut savoir que...
Mais pendant longtemps. T'sais, comme là, on fait un petit voyage au Mexique de 4 mois, puis je commence déjà à trouver ça dur moi-même. Là,
pourtant, ils ne sont pas longues, parce qu'il faut dire qu'il y a des VR où sont vraiment bien optimisées les manipulations. Comme ici, Safari Condo, tu vois que c'est une compagnie qui est là depuis longtemps puis qui ont vraiment optimisé. T'sais. En réalité, la manipulation n'est pas longue. C'est comme peu près 1 minute au total, mettons, toutes les manipulations. Mais c'est de le faire à tous les jours. Mais tantôt, on disait, t'sais, pour les gens qui sont à temps plein ou à temps partiel, mais je dirais même que pour les gens qui ne travaillent pas en même temps de voyager, je pense que c'est pas un si gros irritant que ça de prendre son 2 minutes dans la journée. C'est plus, nous, vu qu'on travaille toute la journée en même temps, bien, ça rajoute à notre travail toutes ces petites manipulations-là. Changer la banquette pour aller à la toilette, changer la banquette pour faire le lit. C'est des petites manipulations qui, quand on travaille à temps plein en même temps, c'est comme ça s'ajoute à notre travail.
Fait, ouais, bref, exact. C'est pour ça que j'aime donner l'exemple pour ma part à moi, mais... Ouais.
Mais je trouve que c'est vraiment le fun. Ouais. On est dans un plan de plancher où on peut être 3-4 personnes. On peut faire à manger, faire la vaisselle. Il y a comme de l'espace de vie qui est récupéré pendant le jour grâce à cette banquette convertible-là. Fait que c'est très utile à avoir quand on a le temps. Puis la manipulation, c'est peut-être pas tout le monde. C'est peut-être juste nous qu'on trouve ça à la longue, faire des manipulations.
Bien, faut dire que ça fait 7 ans, ça va faire 7
ça
ou
va
8,
faire 8 là.
Que notre véhicule où qu'on vit, c'est des VR, c'est des véhicules récréatifs.
Ça a plus fait un impact sur nous,
ben
je pense,
oui,
à cause
parce
de
que
ça.
Ça fait longtemps qu'on est dedans, puis qu'on baigne là-dedans, puis qu'on touche à tout, on expérimente tout. Fait que c'est plus facile aujourd'hui de... Bien, c'est pas que c'est facile, mais je veux dire, on le réalise plus,
ouais,
que c'est des...
Ça nous touche plus, je pense, ouais, ces affaires-là.
Ouais.
Prochain sujet. Là, celle-là, je pense pas qu'on en a jamais jasé tant que ça ensemble, mais je suis sûr que tu vas avoir une opinion là-dessus. Est-ce que tu préfères un véhicule qui a plus de luminosité ou de fenestration par rapport à plus de rangement? Parce que là, tu sais, exemple, si on compare, mettons, notre micro-mini à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais on disait que notre micro-mini avait à peu près la même quantité d'espace de rangement que dans notre Airstream, qui était presque 2 fois la longueur, mais juste par le fait que l'Airstream avait tellement de fenêtres que ça venait condamner des espaces de rangement potentiels, parce que tu ne veux pas un mur où il y a une fenêtre, tu ne peux pas mettre une armoire. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'on devrait privilégier? Plus d'armoires pour du rangement ou plus de fenêtres pour avoir de la luminosité puis des belles vues?
Bien, honnêtement, je pourrais dire mon choix à moi, mais je pourrais pas suggérer ça à d'autres personnes parce que c'est très personnel, tu sais. Si, mettons, on prend ta sœur Joannie qui a 2 enfants puis qui voyage, elle est tout le temps dehors. Elle est tout le temps dehors, mais elle a aussi besoin d'équipement pour aller jouer dehors. Des vélos, ça peut être des skates, ça peut être des affaires
de ski. Des jouets
pour
les enfants.
Oui, exact. Fait qu'eux... mettons qu'on était une famille comme ça, je préférais avoir plus de rangements que de fenêtres. Parce qu'eux sont tout le temps dehors, tu sais. Mm-hmm. Alors que si nous, on est 2 pépères, toi puis moi, puis qu'on travaille à l'ordi toute la journée, m'a opté pour les fenêtres.
Oui, c'est le fun d'avoir de la luminosité dans notre bureau puis d'avoir une belle vue quand on est stationné sur le bord de l'eau.
Mais le meilleur choix, c'est de pouvoir se permettre d'essayer tous ces véhicules-là dans une vie.
Ça, on a de la chance pour ça, mais, mais tu sais, pour les gens qui vont en choisir juste un véhicule, c'est quand même un enjeu qui n'est pas facile à prendre comme décision. Mais je pense que tu l'as bien
décrit. Il y a un équilibre aussi, tu sais. Si tu ne vis pas dans ton lit, pourquoi il y aurait une fenêtre? Tu sais, puis le reste, où ce qu'on dîne, là, il pourrait avoir plein de fenêtres.
Là, je te rappelle, par contre, pour le lit, des fois, c'est le fun d'avoir une belle circulation d'air ou d'avoir la possibilité de quand même aérer
il peut avoir une fenêtre, mais qui est, tu sais, comme la micro-mini, là, les fenêtres étaient basses, étaient petites. On pouvait ouvrir la fenêtre, mais on n'avait pas la vue, on n'avait pas la luminosité, mais au moins, il y avait des fenêtres pour créer
un peu d'aération.
Là. L'aération, tu sais. Ouais. Fait que... Mais aujourd'hui, je pense que les véhicules, ils essayent de faire un bel équilibre entre ces deux-là, puis je pense que c'est pas
mais
un problème.
Mais tu vois quand même
aujourd'hui.
Un mix, quand même. Tu sais, comme nous, on a un plan de plancher qui optimise vraiment la luminosité puis la fenestration. Puis même chez Safari Condo, qui est le même constructeur, ils vont avoir le plan de plancher avec la salle de bain fermée qui va comme te couper quasiment la moitié d'un mur de lumière. Mais quand même, tu sais, tu te retrouves à avoir quand même un équilibre qui a du bon sens. Mm. Mais tu sais, des fois, on voit des aménagements, des gens qui mettent pratiquement pas de fenêtres puis juste des armoires partout pour avoir le plus de rangement possible. Je pense que ça dépend un peu de votre style puis de la quantité d'objets que vous voulez apporter avec
besoins.
Vous.
Ça dépend des besoins, exact.
Mais tu sais, des fois, je pense que ça, c'est peut-être une chose qu'on surestime dans nos premiers voyages ou dans notre premier véhicule. On veut full de rangement, comme si on allait partir avec toute notre maison au complet. Puis quand on part sur la route, on se rend compte qu'on n'utilise pas tant de choses que ça dans une journée. On n'a pas besoin de tant de vêtements que ça non plus. T'sais, on finit qu'en bout de ligne, on va chercher un équilibre puis on remplit ce qu'on a comme rangement puis on se débrouille avec
ça. C'est ça. Je pense que à force de partir avec notre véhicule récréatif, c'est là qu'on dirait que c'est ça. À force de partir, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos besoins, qu'est-ce qu'on utilise vraiment. Est-ce que je vais avoir apporté trop de vêtements? Puis finalement, je porte tout le temps les mêmes parce que c'est les meilleurs vêtements dans la température qu'on est, genre dans la saison qu'on est. On apprend puis on s'ajuste. Puis je pense qu'il n'y a pas de formule précise. C'est propre à chacun, finalement.
Ouais, exact. Prochain sujet, là, celui-là, ça a fait réagir. On parle encore d'Alex et MJ là-dessus, mais air climatisé, est-ce que c'est indispensable d'avoir l'air climatisé dans notre véhicule? Ça, là, on va vous raconter l'anecdote avant tout.
Mais on peut raconter l'anecdote, mais c'est encore un point, Alex, que c'est personnel.
Oui, ça dépend des besoins de chacun, mais l'air climatisé, Alex et MJ, quand ils ont commencé à construire leur van, ils m'ont demandé à moi si c'était vraiment indispensable, parce que d'un, c'est quand même assez coûteux d'installer un air climatisé. Le coût de l'appareil, le passage des fils, percer un trou dans le toit du véhicule, c'est quand même des gros enjeux. Puis, ils me demandaient si c'était vraiment utile d'avoir ça. Puis moi, je leur ai dit, nous, on en a un principalement à cause des chiens. Avant, on avait Snoopy et M. Bond. Maintenant, on a juste M. Bond. Mais malgré tout, des fois, ça arrive qu'on va aller dans un resto, on va faire une activité où on ne peut pas amener M. Bond. Puis on a besoin d'y mettre l'air climatisé à l'intérieur. Puis en général, quand c'est juste pour nos besoins personnels, si c'est pour utiliser notre batterie puis de vider notre banque de batterie, en général, on va se contenter des fenêtres ouvertes, le fan, puis on devrait être correct avec juste nous deux comme ça. Mais, fait que j'avais dit à Alex MJ, avoir pas de chien, je suis pas sûr que j'investirais tout cet argent-là pour avoir l'air climatisé. Fait que finalement, ils en ont pas mis. Puis là, le premier voyage qu'on a fait avec eux, c'est d'aller en Floride pendant un mois et il a fait au-dessus de 30 pendant un mois consécutif.
Il a avec fait anormalement chaud.
Avec MJ qui était enceinte à cette époque-là, ça l'a même amené à l'hôpital à cause de moi. Parce qu'elle s'est mise à faire de la rétention d'eau dans les pieds. Elle avait les pieds qui avaient enflé énormément à cause de la chaleur et de l'humidité. Fait que bref, je me sentais bien mal de leur avoir conseillé de ne pas mettre d'air climatisé. Mais c'est ça, c'est...
Mais c'est parce que selon notre expérience, c'est vrai qu'on n'avait pas tant besoin que ça, mais ça nous permettait d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'on quittait...
Nous, c'était principalement pour les chiens. Les chiens.
Oui, exact.
Ça a souvent été notre enjeu, mais il faut dire que c'était exceptionnel qu'on aille en Floride puis qu'il fasse aussi chaud que ça, parce qu'en général, on essaye de rester dans des environnements qui sont tempérés autour de 20 degrés, puis on voyage beaucoup avec la météo comme ça pour pas que ça crée un enjeu, qu'on soit toujours obligé d'utiliser l'air climatisé. Mais il faut dire que quand t'en as besoin, t'en as vraiment besoin. Quand il fait au-dessus de 30, ça commence à être invivable dans un véhicule. Si t'es pas à l'ombre, là, c'est vraiment difficile
surtout
à vivre.
Que...
Je pense que si vous êtes en réflexion d'installer ou non, ou de prendre une option d'air climatisé ou non sur votre véhicule, Je pense que c'est surtout une question à se poser de c'est quoi les destinations que vous voulez faire, puis c'est quoi les températures au moment où vous voulez y aller. Parce que c'est sûr que si votre but, c'est de faire que de la Floride l'hiver puis de rester au Québec l'été dans les régions où il fait chaud, peut-être que là, ça peut être indispensable. Si vous pensez un peu comme nous, de voyager au gré du vent avec la météo puis de ne pas rester dans des endroits où il fait 35 pendant une semaine, que vous allez juste changer de place, bien là, peut-être que vous êtes capable d'éviter cette dépense-là.
Puis un détail aussi d'air climatisé, ça va aller selon votre grosseur de véhicule.
Oui.
Parce qu'il y en a des longues roulottes qui vont avoir besoin de deux air climatisés pour fournir la grande superficie. Alors que nous, dans nos VR, la Airstream, il y en avait un.
Oui, il y en avait juste un, mais il y avait l'option d'en avoir deux.
Mais c'était suffisant.
Ben, c'est parce qu'on n'a pas été, mettons, à des endroits où il faisait super chaud. Mais je me souviens que quand il faisait très, très chaud, notre seule unité était dans le piton puis avait de la misère à garder ça. Il ne fallait pas l'arrêter du tout. Il fallait qu'elle roule à longueur de journée pour garder ça en bas de 23, mettons.
Oui, c'est vrai.
Fait que c'est ça. Fait qu'il y a ça à réfléchir. Il y a le volet d'en avoir un ou deux selon la taille de votre véhicule. Puis là, quand vous tombez à deux, bien là, vous tombez avec des prises de 50 ampères qui ne sont pas disponibles partout, que c'est plus rare à trouver ça vraiment juste dans des gros RV resorts ou des gros RV parks. Puis comme ici au Mexique, entre autres, vous ne trouverez pas ça partout, là. Puis sinon, l'autre enjeu, bien, c'est de si vous voulez le faire fonctionner off-grid, sans être branché dans un camping, bien là, ça vous prend un gros kit de batterie. Ça prend idéalement un air climatisé 12 volts pour être capable de le faire rouler à plus long terme. Fait que là, c'est des plus grosses dépenses. Fait que c'est vraiment à réfléchir de ce côté-là. Mais bref, c'est un peu le même thème dans tous les sujets qu'on discute ensemble aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas de réponse officielle de « ça prend ça ou ça ». Ça dépend tout le temps de votre situation, mais je pense qu'on essaie de...
Non, mais c'est bien parce qu'on a... Si on touche à tous ces points-là, les gens, ils peuvent...
C'est ça mon but. C'est comme des aiguillés qu'eux autres, ils se disent « ah ben moi, je suis un peu comme ça » ou « moi, je suis comme ça » puis qu'ils puissent un peu prendre leur décision en fonction de ça. Après ça, dormir dans une capucine, comme dans un classé ou dans un campeur porté, penses-tu que c'est faisable? Est-ce que tu as aimé ton expérience? Bref, c'est ça que je voulais parler parce qu'il y a beaucoup de monde qui privilégie... Mon point était plus qu'il y a beaucoup de monde qui privilégie les formats classe B comme on a, mais il existe des classes C qui sont à peu près du même format où tu vas avoir la capucine pour dormir en haut, mais que ça te libère beaucoup d'espace de vie en arrière. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui éliminent tout de suite l'option de la capucine. Je ne sais pas si c'est par question de look extérieur ou par question de ne pas vouloir dormir dans un petit espace mince comme ça. Fait que bref, qu'est-ce que t'en penses, toi, dormir dans une capucine?
Ben, capucine, ça a été toute une histoire pour moi, parce que dans les débuts, la première fois que j'ai dormi dans une capucine, c'était très, très peu espacé. Le plafond était très proche de mon visage, et puis on était dans une période où ce que les nuits étaient fraîches, donc on avait mis du chauffage. Mais le chauffage pointait vers nous et on n'avait pas ouvert de fenêtre, donc aucune circulation d'air. Bien évidemment, j'ai manqué d'air. Manqué d'air égale, je vais paniquer parce que là, essaye de sortir d'un tout petit espace, essaye d'atteindre la porte. Ça a été compliqué pour moi. On avait à ce moment-là temporairement acheté une caravane portée de marque Palomino.
Oui, c'était avant d'avoir le Lucky, dans le fond, ouais, en attendant de l'avoir.
Exact. Puis... Mais j'ai compris, tu sais, je me suis calmée, je me suis écoutée, puis je me suis réessayée, je me suis pas laissée avoir par ce malaise-là. Puis finalement, j'ai compris que ça me prend une fenêtre. Si vous optez pour un véhicule avec capucine, ben ayez des fenêtres, au cas où.
Ou du moins la personne qui est la plus claustrophobe ou qui peut plus paniquer comme ça, c'est important qu'elle ait au moins accès à une fenêtre proche pour être capable de l'ouvrir et avoir un peu d'aération.
Puis j'aime ça, une capucine. Pourquoi? Parce que c'est justement ça. Tu l'as dit, Alex, c'est une pièce à part. Mm-hmm. C'est en dehors du reste de la vie. T'sais, comme...
On avait vraiment l'impression que tu étais comme dans une chambre si moi, je t'ai réveillé le matin.
Oui, c'est une pièce séparée.
Oui, ça, c'était le fun pour ça, je pense, d'avoir ça.
Comme ça, moi, je peux rester... Si, mettons, ce matin, j'ai goût de rester dans le lit parce que j'ai mal dormi, bien, je peux rester dans le lit, tu peux faire ta journée, tu peux cuisiner, tu peux travailler, comme si j'existais pas, comme si j'étais dans une pièce à part.
Oui, puis même on parle tantôt de transformer la banquette en lit, mais même de faire le lit, je veux dire, vu que c'est comme en haut, là, mettons que tu te lèves puis ça ne te tente pas de faire ton lit, tu laisses ça en haut,
non,
puis c'est pas grave.
Mais non, parce que je dépends pas du lit, tu sais. Comme ici, à tous les matins, je dois faire le lit pour pouvoir déjeuner et travailler. En fait, je pourrais venir travailler avec toi en avant. Je pourrais le faire, c'est vrai.
Tu pourrais le laisser en lit pareil.
Je pourrais le faire.
Mais c'est juste qu'on profite du fait qu'on a les deux espaces puis qu'éventuellement, dans la journée, ça va être pratique d'avoir la banquette, fait que tu le fais le matin pareil. Mais, mais j'avoue que quand même, t'sais, le concept, c'est que tu as un lit fixe qui est toujours là, puis il est à l'écart, il n'est pas dans les jambes, il nuit pas, puis il te sauve de l'espace de vie quand même malgré tout.
Mais, pour ça, Capucine, j'aime ça.
Ouais. Mais l'enjeu, par contre, avec les VR et Capucine, ben, c'est souvent qu'on se retrouve à avoir un véhicule qui est plus haut, avec un centre de gravité plus haut, plus de risque d'accrocher avec les branches sur la route. Ça tient un peu moins bien la route qu'une van traditionnelle comme ça ici. Fait que, bref, chacun a ses avantages et désavantages, mais je trouve des fois que les classes C sont un peu sont pas assez populaires pour ce qu'ils devraient. Mais en même temps, il faut dire que c'est vrai que pour côté look, mettons un classe C, le, des campeurs portés, il y en a des cool, mais des classes C cool, il n'y en a pas beaucoup. On dirait qu'ils sont comme relayés à la catégorie des VR de location, mais pourtant, je trouve que le concept est vraiment bien fait. Mais aussi, l'autre gros enjeu avec une Capucine, c'est que là, tu passes vraiment plus inaperçu. Tu es un VR. Tu peux pas nécessairement te stationner partout parce que le monde savent qu'il y a du monde qui dorme là-dedans. Tandis qu'une van, des fois, une fois que tous les rideaux sont fermés, ça peut être un véhicule de livraison. Ça passe un peu plus inaperçu dans le paysage qu'un gros VR avec des gros collants de VR sur le côté puis tout ça.
Bah, je sais pas. C'est pas. Moi, on dirait que les VR, quand t'en as un, t'assumes. Puis tu vas dans les campings, tu vas dans les emplacements où tu as le droit de passer la nuit gratuitement.
C'est parce que nous, on n'est pas des gros risqueux comme ça.
Non, c'est ça. Exact. Fait que je vois pas l'importance d'être vraiment beaucoup low profile. Là,
mais ceux qui aiment dormir dans les villes...
En français, low profile.
Profil bas. Bon. Subtil, on va dire. Bon, mettons subtil ou stealth, qu'on va dire en anglais.
Ben, mais... Je sais même pas c'est quoi stealth. Tu dis pas ça?
Ben, c'est furtif, le mot stealth.
Furtif.
Ouais. Mais ceux qui aiment dormir en ville puis de ne jamais payer un emplacement, c'est sûr que plus tu es furtif, plus c'est efficace puis moins tu vas te faire achaler. Nous, c'est qu'on n'aime pas tant que ça défier la loi et dormir à des endroits où c'est plus risqué. Fait qu'on aime mieux dormir sur nos deux oreilles à un endroit qu'on est...
Quand tu as un VR, tu veux avoir ton petit emplacement à toi, t'installer, sortir tes chaises, faire du barbecue.
Ben, au moins une fois de temps en temps. Là.
Ça, c'est le fun.
Ouais.
C'est le fun pour ça.
Prochain sujet, chauffe-eau instantané ou chauffe-eau à réservoir? Parce qu'on a eu l'expérience de tous les types. On a eu des chauffe-eau instantanés, comme on en a un présentement. On a eu, donc, lui qu'on a ici présentement, c'est le Truma. On a eu aussi dans la Micro Mini un chauffe-eau instantané qui était un Atwood, qui était vraiment mauvais. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, mais...
Puis on a eu des chauffe-eau avec réservoir dans le Lucky et dans l'Airstream. Toi, qu'est-ce que tu préfères?
Bien, je peux y aller dans l'ordre du meilleur au moins. Bien, le plus moins fun.
Oui, bien, vas-y avec ça, puis moi, je commenterai après.
Bien oui, parce que je ne connais pas trop ça, mais dans la Safari Condo, elle est vraiment... Tu tournes la petite roulette pour avoir de l'eau chaude, puis pouf, tout de suite, tu as l'eau chaude. Puis elle est quand même... Au début, elle n'était pas, je ne comprends pas, là, mais maintenant, elle est super constante.
Ouais.
Donc, quand on prend une douche, on a l'eau chaude... on fait pareil les douches militaires là, pour épargner sur l'eau, les réservoirs, tout ça. Donc, je me mouille, après ça, j'arrête l'eau, je me lave, je me remouille, that's it. Mais à chaque fois que j'allume le pommeau de douche puis que j'active l'eau, j'ai de l'eau chaude. Fait que ça, c'est un luxe en soi.
Puis t'en as à l'infini, là. Ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est que si t'es branché dans un camping, tu peux prendre une douche de 15 minutes si ça te tente. Là.
Bien, c'est juste que ça n'arrive pas.
Non, je sais, mais si tu veux, tu peux.
Si... Oui, c'est ça. Puis après ça, ça serait peut-être la micro... Non, le chauffe-eau du campeur, du Lucky qu'on avait. Mais ça, il fallait attendre un petit peu.
Oui,
il fallait attendre un petit peu 15 avant. Minutes, fait que tu disais, je vais prendre ma douche à soir. Un petit 30 minutes, ça dépend si on l'activait l'hiver ou pas, là, mais un petit 20 à 30 minutes avant de prendre ta douche, ben t'allumes le chauffe-eau, mais ça te donne le temps de t'installer. Tu montais, nous, on montait la douche parce que c'était une douche amovible, donc ça nous permettait de tout faire ça.
Mais
quand on était prêt, pouf!
Le désavantage, c'était pour la vaisselle, entre autres, parce que la vaisselle, tu veux de l'eau vite, puis la vaisselle, tu la planifies pas 30 minutes à l'avance, mais tu peux toujours, mais reste que je trouve que, dans cette vanne-ci, c'est ce qui est intéressant avec la Safari Condo, c'est que quand t'en as besoin, tu pèses sur le bouton, il y en a, puis il y en a comme tu veux à l'infini.
Ah, puis la micro-mini, là.
Oui, celui-là.
La première roulotte qu'on a eue, ça, c'était un... comme une boîte à surprises. Ouais. Tu prenais ta douche, tu ne savais pas si... Ben, il y avait tout le temps de l'ajustement à faire. Ouais.
C'était jamais parfait, en fait. Ce chauffe-eau-là, c'était définitivement le plus mauvais qu'on a jamais eu. C'était dans les premières générations de chauffe-eau instantané, mais je pense qu'il y a encore des marques de VR qui utilisent encore ces chauffe-eau-là, qui étaient les Atwood. Fait que, bref, faites attention si vous achetez un VR avec un chauffe-eau instantané Atwood. Lui, l'enjeu, puis même tu dis que c'était une boîte à surprise, c'était à la longue, c'était même plus une boîte à surprise. On le savait qu'est-ce qui nous attendait. C'était à chaque fois que tu allumes, que tu fermais l'eau puis tu la rallumais, tu avais un cycle de eau gelée à eau bouillante à eau normale. Ouais. Puis là, des fois, ça se produisait n'importe quand dans ta douche. Fait que quand tu entendais quelqu'un dans la douche, tu entendais tout le temps un petit « Ouh! Aïe aïe! »
Ouais.
Ça, c'était vraiment... Il faut dire que Truma, qui est le chauffe-eau instantané qu'on a dans la van de Safari Condo, lui, c'est le meilleur qu'on a pu tester à date dans les chauffe-eau instantanés. Il n'y a pas ces cycles-là. Des fois, ça arrive là, qu'on a un petit bout, une petite variation de température dans l'eau, mais d'un, sont moins drastiques puis sont moins fréquentes, on va dire. Il y en a de temps en temps, mais en général, ça fonctionne bien.
Quand on était plus au nord... Avec les températures un peu plus fraîches, on dirait qu'on le ressentait beaucoup. Mais là, depuis qu'on est ici, un peu plus au sud, je trouve que ça l'arrive. Ça ne m'est pas arrivé.
Oui, bien, c'est parce qu'il faut que tu dises que, dans le fond, l'eau, elle arrive du réservoir qui, lui, est un peu régi par la température extérieure. Fait que, tu sais, s'il fait bien froid, bien, l'eau qui arrive dans le chauffe-eau est bien froide. Fait que si jamais le chauffe-eau, il laisse passer une petite graine d'eau qui n'a pas eu le temps d'être chauffée, bien, elle est très froide. Fait que ça paraît. Fait que, bref... Il n'y a pas de parfait, mais ça m'amène à mon prochain sujet. Bien, je pense que le parfait, c'est peut-être l'instantané à l'infini de Truma, mais le désavantage qui vient avec, c'est qu'il est au propane, il ne se fait pas au diesel, il ne se fait pas en électrique. Fait que ça prend nécessairement un réservoir de propane avec. Puis ça, c'en est un désavantage. Ça, c'est certain d'avoir un autre type de carburant à bord, d'avoir, tu sais, quand tu passes dans des tunnels, il y a des endroits où tu peux pas, où il faut que tu fermes ta bonbonne. Quand tu prends des traversiers, il faut que tu trouves des endroits pour les remplir, tes réservoirs. Fait que bref, il y a ce désavantage-là qui vient avec.
Mais il y a aussi, tu sais, tu parles des choix de système de chauffe-eau. Bien, moi, je trouve que c'est bon d'en avoir un bon parce que quand on est autonome, quand on n'est pas dans un camping... On se soucie beaucoup de la quantité d'eau qu'on utilise, des réservoirs, qu'est-ce qu'on gaspille.
Ça a un gros impact.
Si tu es dans la douche, puis là, tu as enlevé tous tes vêtements, puis là, tu attends que l'eau chaude arrive dans ta pomme de douche, il y a beaucoup d'eau froide qui s'en va dans les
eaux usées que tu gaspilles.
Pour rien.
Ouais.
Puis, tu sais, on dirait que... Tu sais, oui, je pourrais mettre ça dans un bidon, mais on n'a jamais... Un bidon,
ben non,
je veux dire, il faut y penser, tu sais pas si ça va t'arriver, il faut que tu le transportes. Fait que, t'sais,
ouais.
Et oui, il y a moyen de moyenner, mais je trouve que c'est une belle chose à réfléchir là, si tu as le choix de prendre...
Il y a moins de gaspillage.
Ben oui.
Prochain sujet, toilette, douche permanente ou toilette, douche, on va dire, fantôme ou amovible comme on a présentement. Qu'est-ce qui serait ton choix ou à qui tu penses que ça s'adresse, les deux types?
Pour ma part, personnellement, n'importe quelle sorte de douche, n'importe quelle sorte de toilette me convient. Je suis vraiment pas difficile là-dessus. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'une douche à tous les jours. J'ai pas besoin d'une toilette fixe. C'était la toilette sèche qu'on avait dans le Lucky Base Camp. Je l'aimais, c'était ma meilleure amie. Puis la gestion était facile, c'était simple. C'est sûr que dans la manière qu'on a utilisé le Lucky puis les endroits qu'on a utilisés, ça nous permettait d'avoir une belle toilette sèche. La gestion était facile, mais si on... Tu sais, à part que... Comment je pourrais dire ça? C'est que dans les situations qu'on était avec le Lucky, c'était parfait, la toilette sèche. Mais si on avait eu un VR avec une toilette chimique, on n'aurait pas pu aller aux endroits qu'on a fait. Tu sais, mettons...
Ouais, parce qu'il y a des enjeux avec l'hiver... Où il n'y a pas de dump station pour aller domper ton réservoir d'eau noire. Fait que ça, c'est clair que c'est un désavantage si tu veux utiliser ton véhicule en hiver. Mais moi, comme moi, si je vais avec mon avis personnel, parce que c'est ça, on est deux personnes différentes pour ça. Moi, j'ai besoin de ma douche à tous les jours. Je suis quelqu'un qui a chaud tout le temps, je sue beaucoup. Fait que moi, si je prends pas ma douche à tous les jours, ou du moins au moins aux deux jours, je me sens pas bien dans ma peau. Là. Je suis sale, je pue. Fait qu'il y a le volet que je prends souvent des douches. L'autre volet de la toilette, bien ça s'est développé avec le temps. Avant, c'était pas tant que ça un enjeu, mais j'ai développé avec le temps des problèmes d'intestin qui m'amènent à aller à la toilette plus souvent. Puis ça devient un peu plus un irritant de devoir toujours convertir ou devoir... T'sais, si on n'a pas une toilette fermée, bien là, il faut que soit que Val sorte ou que Val... que je mette un rideau ou quelque chose pour séparer les espaces. Puis gérer les odeurs. Fait que bref, moi, pour ma part, les prochains véhicules, si je devais en acheter un... Je vais en prendre un avec une toilette douche fermée. J'ai fait le test des deux. Je préfère avoir ma toilette douche fermée. Au péril de perdre de l'espace de vie, parce que c'est fun, comme dans notre plan de plancher présentement, d'avoir autant d'espace de vie. Mais pour moi, c'est rendu plus important d'avoir ma toilette douche séparée. Mais le pire, c'est que le moi de là, 7 ans, peut-être qu'il aurait été plus à l'aise que moi d'aujourd'hui. Mais bref, nous...
Mais un autre aussi point... C'est que, tu sais, mettons, pour ma part, n'importe quelle sorte de toilette me convient, n'importe quelle sorte de douche me convient, mais au moins qu'il y ait une toilette et une douche.
Oui. Ça, nous, on n'aurait
pas capable de vivre. On ne serait pas du tout d'en avoir à même le véhicule, si on ne serait pas capable.
C'est comme la vanne de Dominique de Van Life Saga, qui, lui, a toujours eu des véhicules avec pas de toilette douche.
On serait capable. On serait juste...
Ben moi, c'est moi, pas, je serais c'est pas nous, non, c'est juste moi, pas je serais, nous. Moi, je serais pas capable, je te dirais, parce
ben,
que...
on l'a fait.
Tu sais, je te replace juste quand on est au Québec puis qu'on se promène, mettons, puis on va faire des commissions avec notre Aztec.
Oui, oui.
Ça nous manque d'avoir une toilette en arrière, même juste pour aller à l'épicerie, puis t'as une envie qui te prend, ben là, oups, t'as ta toilette déjà.
Ben pas juste la toilette, toute. Ouais. Tu sais, le frigidaire, on traîne notre frigidaire, on traîne nos vêtements, tu sais, tu peux te changer sur place, tu traînes tout le temps la nourriture du chien.
Mais tu sais, même le concept de douche extérieure, là, de ceux qui n'ont pas de douche à l'intérieur puis qui sont obligés de prendre la douche dehors, moi, on dirait que... ça m'est pas arrivé souvent d'être dans des endroits où je me sentirais vraiment à l'aise de prendre ma douche dehors. Tu sais, même avec un rideau, là, c'est pas une question du rideau, mais d'un, ton savon, ton eau coule tout à terre. T'sais, tu fais pas ça dans un stationnement public. Tu sais, ça se prête peut-être juste à des emplacements vraiment en boondocking, dans le bois ou à quelque part dans le désert où tu es tout seul. Mais tu sais, juste la première fois que j'ai essayé de faire ça avec la Palomino dans le temps, on était dehors dans le milieu du bois au Saguenay, puis... Je commence à prendre ma douche, puis il arrive des gars en motocross en arrière de moi qui me gênent un peu pendant ma douche.
Alors que tout le reste de la journée, c'était tranquille.
Fait que bref, nous, ça, c'est non négociable. Il va toujours avoir une toilette et une douche à l'intérieur. Puis là, ben à cause de moi, elle va être fermée si on en rachète un. Par contre, on en a une qui n'est pas fermée, puis on vit très bien avec ça. Mais en acheter un qui serait le nôtre pour toujours, là, investir un montant d'argent dans un véhicule, moi, il y en aurait une fermée éventuellement.
Cerner vraiment vos besoins, c'est vraiment comme ça, je crois. Ouais. Là, c'est, allez-y par élimination, allez-y avec ce qu'on vous dit, parce qu'on est tous différents, vraiment.
Après ça, ben, je reste dans le sujet des toilettes douches.
Ben oui, évidemment.
Toilettes fixes ou portatives, chimiques ou compostables. Qu'est-ce que tu as le préféré, toi, dans les différents types de toilettes qu'on a utilisées?
Elle du campeur, là.
Celle du Lucky, qui était, dans le fond, une toilette compostable, qui était la Sea Head Composting Toilet, que nous, on avait converti en toilette avec des sacs au lieu de la portion compostable. Nous, la toilette compostable, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Ça dégageait tout le temps des odeurs. Peut-être ceux qui ont la toilette la plus évoluée, la Nature Head, qui, elle, a vraiment une ventilation... peut-être que celle-là, ça aurait peut-être mieux fonctionné que la Sied qui était vraiment fermée. Mais nous, ça dégageait toujours des odeurs, ça sentait pas bon.
Mais
pis...
dis pas nous, parce que juste toi qui l'as essayé.
Oui, ben en tout cas, moi, ça dégageait tout le temps des odeurs. Mais bref, on a une vidéo là-dessus complète où on fait des tests et tout ça. Mais fait que bref, on a fait la conversion avec des sacs. Donc à chaque fois qu'on avait un numéro 2, c'était dans un sac et on le jetait dans n'importe quelle poubelle sur notre chemin. Puis ça, honnêtement, c'est... Autant ça paraît bizarre d'en parler comme ça, mais c'était vraiment le meilleur concept.
Bien, c'était plus agréable de gérer une toilette un petit peu à tous les jours que d'aller trouver une station de vidange et de passer un bon 15-20 minutes à vider, à nettoyer, à manipuler, à attendre après les autres qui sont déjà sur place puis qu'eux aussi, qu'il faut qu'ils vident leur réservoir.
Ouais, puis non seulement il y a cet enjeu-là du temps que ça prend, mais il y a aussi la disponibilité de ces stations de dompage-là.
Mais surtout l'hiver, avec le campeur qu'on avait, le Lucky Base Camp, c'était un campeur qu'on pouvait utiliser en hiver. Donc, on avait l'eau quand même, on avait notre toilette, on pouvait utiliser notre douche. Donc, c'était plus dur pour nous, dans ce cas-ci, d'avoir des réservoirs puis qu'on trouve une station de vidange en hiver. C'était comme pas possible. On a trouvé dans l'Ouest canadien. Il y en avait une dans l'Ouest canadien.
Mais
c'est
rare,
pas mal tout, là.
C'était quasiment les seuls au Canada qu'on a trouvé en hiver.
Mm-hmm.
Puis encore là, ben là, t'as pas d'eau sur place souvent, fait que tu peux même pas rincer ton réservoir, tu peux pas laver tes tuyaux.
Mais ça va peut-être se développer.
Avec le camping
d'hiver,
ouais. Parce
que là, ça commence à être vraiment la mode. C'est beau à voir aller. Fait que je croise les doigts pour les gens qui vont faire du camping d'hiver qui, un jour, vont avoir accès à beaucoup plus d'espace, de stations pour vidanger.
Puis ceux qui viennent dans des pays comme le Mexique ou qui vont vers l'Amérique du Sud, il y en a de moins en moins aussi des stations de vidange. Fait que c'est plus efficace à vider, mettons, un petit réservoir de toilettes compostables que tu peux amener dans n'importe quelle toilette.
Mm.
Puis ça va, c'est plus simple à faire.
Dites-vous qu'au lieu que ce soit un réservoir avec du papier, du solide et du liquide, là, la toilette qu'on avait portative...
du liquide, là.
C'est, mettons... Ça peut être quoi? C'est combien? Mettons, on va dire 6 pipis
Nous, en général, c'était une journée d'utilisation, à peu près une journée et demie, puis on devait le vider. Mais sauf que, tu le vides n'importe où, tu le vides...
Mais dans les toilettes, c'était... Tu sais, je veux dire, c'est parfait. C'est comme si t'allais... C'est comme si tu avais une famille de 6 qui allait à la toilette
en même temps.
Normale en même temps.
C'est
fait que, tu sais, ça, c'est, il n'y a pas de trouble là-dedans.
Puis il n'y avait pas d'odeur.
Ça ne peut pas boucher la toilette parce qu'il n'y avait pas les papiers avec. Les papiers allaient dans le sac. On achetait des grands sacs à chien. Un petit truc comme ça.
Ouais.
Et puis, c'est là-dedans qu'il y avait les solides et les papiers.
C'était une gestion qui était peut-être plus à tous les jours, mais moins de problèmes à long terme, on va dire. Puis il n'y avait pas d'odeur non plus, il n'y avait pas de, dans le véhicule ou quoi
puis
que ce soit.
C'était rapide, super rapide. Puis...
Mais c'est quand même un apprentissage puis de s'habituer à ce genre de toilette-là, parce que, tu sais, c'est pas... Tandis qu'une toilette fixe avec un réservoir d'eau noire, comme dans un VR traditionnel, c'est un peu comme la toilette à la maison. Tu fais ça dans l'eau, puis tu flushes, puis c'est parti, puis tu le vois pas, puis tu plugues ton tuyau, tu le vois toujours pas, ça passe dans le tuyau, puis ça s'en va dans le teint.
J'ai aimé notre toilette portative, mais j'aime autant la toilette fixe ici.
Mais la toilette fixe, c'est le fun d'avoir un plus gros réservoir, puis de pas avoir à le gérer à tous les jours.
Ouais.
Ça, c'est ça qui est le fun. Mais c'est ça, ça dépend un peu de où vous voulez aller. Si vous voulez faire du camping d'hiver beaucoup puis d'aller dans des pays comme le Mexique puis l'Amérique du Sud, peut-être qu'une toilette portative ou une toilette chimique peut être plus avantageuse pour vous. Mais sinon, c'est sûr que la gestion à long terme, tu sais, comme l'Airstream qu'on pouvait faire 2 semaines sans avoir à vider, c'était pas mal moins de troubles. Tu sais, tu y vas une fois 15 minutes aux 2 semaines au lieu de gérer ça tous les jours.
Ouais, puis tu vas pas à 100% du temps dans ton VR. Tu sais, si tu visites, clairement, tu n'utilises pas ta toilette de ta roulotte.
Ouais. Prochain point, là, c'est plus pour moi. Je me pose une question à moi-même. Mais c'est parce que je sais que c'est un enjeu que les gens se posent souvent comme question, mais c'est l'énergie solaire, de faire installer un kit pour être autonome à 100%, est-ce que c'est un must ou pas? Considérant l'investissement quand même important, parce qu'on s'entend que si vous voulez vraiment avoir un véhicule qui est autonome avec, mettons, un kit de batterie lithium, panneau solaire, un onduleur pour faire fonctionner tout ça sans être branché dans un camping, on parle d'un investissement minimum de 5 à 10 000 $ Et si vous voulez vraiment un gros kit haut de gamme avec beaucoup, beaucoup de capacité, là, ça peut aller au-dessus de 10 000 Je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui s'équipe pour être autonome comme ça, mais qu'en réalité, ils ne l'utilisent pas tant que ça. Puis je pense que, tu sais... Moi, j'en vois beaucoup, là, tu sais, des gens qui... Tu sais, il y a énormément de gens qui s'équipent comme ça, pour exemple, aller en Floride pour l'hiver. C'est pas tant que ça utile. Tu vas passer 3-4 nuits en autonomie dans des Walmart en descendant, puis après, en Floride, il y a très peu de boondocking. Tu te retrouves quasiment toujours dans des campings. Fait que, tu sais, rendu là, à quel point ça prend vraiment un si gros kit que ça pour tout le monde, je suis pas certain que tout le monde rentabilise vraiment son investissement. Puis c'est de là que je crois beaucoup aux produits, entre autres de Blue Yeti ou des batteries, des stations d'énergie portatives comme ça, ou EcoFlow ou des batteries comme ça, que tu peux au moins revendre par après si tu n'as pas besoin, que tu peux amener dans un prochain VR si tu en as besoin. Puis ça vient juste te donner l'autonomie d'une journée ou deux que tu peux avoir besoin quand tu es en transit. Puis une fois que tu vas être dans un camping, après, tu t'en serviras pratiquement pas. Fait que bref, je trouve que des fois, il y a beaucoup de monde qui investissent des gros montants pensant qu'ils vont capoter sur l'autonomie, mais en réalité, il y a de moins en moins d'emplacements où on peut camper en autonomie parce que de plus en plus, il y a de règles, puis tout ça, ça complique un peu les choses. Fait que, bref, pensez-y deux fois avant d'investir tous ces montants-là. Moi-même, j'en parle beaucoup, puis je vends l'idée de l'autonomie, mais je pense pas que c'est destiné à tout le monde.
Mais non, mais c'est pas une question de vendre l'autonomie et tout ça. C'est plus voir c'est quoi vos besoins. Puis est-ce que j'en ai vraiment besoin à temps plein? De là, l'idée d'avoir une batterie, que celle-là, justement, si tu fais plus de VR, si tu fais plus de camping pendant 3 mois, bien, tu peux l'emmener dans ta maison, puis le mettre dans le garage, puis l'utiliser pour d'autres choses.
Quand alors, il y a une panne de courant,
alors que ton système électrique, il n'y a pas le choix de rester dans le véhicule.
Ouais.
Puis c'est ça, c'est juste une utilisation. Puis à quel point vous l'utilisez une fois que vous êtes rendu à destination en camping?
Bien, tantôt, on parlait à qui ça s'adresse. Je pense que les gens qui sont des full-timers ou qui font des très longs voyages de plusieurs mois, là, peut-être, ça peut être utile parce que oui, à long terme, vous allez le rentabiliser quand même, votre investissement. Mais pour les gens qui prennent ça juste un week-end de temps en temps, je sais pas si à quel point c'est rentable.
Bien, à moins que vous ayez une famille full techno, là.
Oui, mais sinon, tu sais, acheter une batterie, mettons, une station d'énergie comme une Blue Yeti, puis la revendre après votre voyage, tu sais, au moins, l'investissement se rembourse rapidement si tu fais ça comme ça.
Bien, dans le sens, il y a de quoi d'intelligent à faire. Tu sais, ça se réfléchit, puis ça, il y a des bons... c'est des belles dépenses à réfléchir, en fait.
Oui, exact. Fait que voilà, Val, ça fait le tour de mes sujets. C'est tout.
C'est tout?
C'est tout.
Il y a tant de choses à aborder. Ouais. Il n'y a pas d'autre chose, là, les bancs qui pivotent, le nombre de tiroirs.
Non, ben peut-être on s'en gardera pour une prochaine fois. Ben, si vous avez des suggestions, des questions dans vos choix de véhicules, vous nous écrirez ça dans les commentaires. On pourra peut-être vous aider à faire vos choix dans les prochains. Encore une fois, merci beaucoup à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. Si ça vous tente d'avoir les 3 mois gratuits, utilisez notre code promo Alexandre et Valérie. Puis nous autres, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!
Bye!